through. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Catherine Robin, Antoine Guillot et Joseph Gosne pour parler ensemble de Kill My Mother, c'est le titre, hein. C'est pas moi qui dis une chose pareille, le titre de l'album de Jules Pfeiffer chez Actes Sud BD, Elle froide de Jean-Marc Rochette, ou de Rochette, hein, c'est le nom qui est sous ça, la tranche du livre chez Casterman, et puis nous parlons de l'exposition Chris Ware à la galerie Martel. Boris Pino est là, qui surveille les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires ou questions que vous pourriez avoir concernant notre programme. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Chris Marker qui a lieu jusqu'au 29 juillet à la Cinémathèque française à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un événement, la publication en France du nouvel album de Jules Pfeiffer, sorti en 2014 aux États-Unis, édité en France par Actes Sud, donc dans une traduction de Vladimir Anselme. Pour les non-initiés, il faut savoir que Jules Pfeiffer est né en 1929 à New York. Il est auteur de bandes dessinées, de dessins de presse, écrivain, scénariste de cinéma, auteur de théâtre. Il a pris sa retraite officielle de dessinateur de presse en 2000, mais il n'est pas resté inactif, comme le prouve Kill My Mother, dont nous allons parler, qui a déjà été célébré par Chris Ware, dont on va parler tout à l'heure, par Art Spiegelman, par Stan Lee, entre autres, toutes trois vantant l'incroyable force créative du bientôt nonagénaire.
My blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money. The sky is sunny. Oh man, depression, you are through. You done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, my honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around.
Oh boy, we're in the money. I'll say we're in the money. We got a lot of what it takes to get along.
On se mettait dans l'ambiance, évidemment, avec cette terre d'une comédie musicale, les chercheurs d'or, Gold Diggers, pour les anglophones, qui ouvrent cet album de Jules Pfeiffer. Et c'est Joseph Gosne qui va ouvrir, lui, la discussion sur le dit album.
Eh bien, avec plaisir.
Jules Pfeiffer. En quelques mots, peut-être, hein, parce que j'ai dit des choses très rapides, mais pour le placer où, vous?
Je le classe dans une école new-yorkaise à la Harvey Kurtzman, un peu précurseur de ce qu'a fait Art Spiegelman aussi un peu plus tard. Une école que j'aime plutôt quand elle est dans l'illustration, qui est peut-être un tout petit peu trop humoristique pour moi, enfin qu'il a été peut-être un peu trop proche peut-être du magazine Mad, etc. enfin qui est issu de ça aussi. Donc c'est pas forcément cette bande dessinée américaine là que j'ai lu ou en tout cas que j'ai vraiment apprécié. Elle est peut-être un tout petit peu datée pour moi. Mais je l'apprécie vraiment quand elle est dans la mouvance du New Yorker, c'est-à-dire dans l'illustration pure, dans l'illustration de livres, ou alors dans des livres qui sont juste du dessin mis bout à bout et reséquencé sans forcément d'histoire à la longue.
Bon bah là c'est raté, mais je fais un tour de table peut-être sur Jules Pfeiffer, Catherine Robin.
Là, je rejoindrai Joseph, c'est que son dessin me fait beaucoup penser moi à Quentin Blake. L'anglais, et qui lui aussi a beaucoup illustré de livres sans faire de bande dessinée à proprement parler. Il excellait avec Roald Dahl, puisque c'est le dessinateur compagnon de Roald Dahl. Et j'avoue que là, il trouve tout son sens. Enfin, en tout cas, dans la longueur, il a aussi beaucoup d'intérêt de sortir du strip et du dessin de presse, mais peut-être qu'on développera un peu plus tard. Il a fait très peu de livres et de romans graphiques, et là je trouve que c'est une grande réussite.
Il a attendu d'être suffisamment mûr peut-être pour exactement. Les faire. Antoine Guillot.
Oui, il se trouve en fait qu'on connaît très mal Jules Pfeiffer en France parce qu'il n'est pas édité, tout simplement parce que la majeure partie de son œuvre, ce sont ses cartoons satiriques dans le Village Voice, qui ils sont vraiment très liés à l'actualité américaine, donc très difficile à éditer en France sans tout un appareil critique qui explique ce qu'il est. On le connaît en France pour sa participation au film d'Alain René, I Want to Go Home, dont il avait fait le scénario et dont il faisait aussi les dessins de ce chat un peu hirsute qui intervenait régulièrement dans le film. Et puis c'est lui qui avait fait le scénario de ce plaisir qu'on dit charnel de Nichols aussi, et l'adaptation de Popeye pour Altman. Donc on le connaît presque plus pour sa participation au cinéma, et on le connaît aussi pour avoir été un des premiers assistants dans sa jeunesse, il avait pas 20 ans, sur le Spirit de Will Eisner. Et on va pouvoir le développer après, mais je pense que des années 60 ans, plus de 60 ans après, il s'en souvient de ce travail avec Will Eisner, notamment pour ce qui est de la mise en page.
Alors comme c'est votre choix, Antoine Guillot, que cette proposition d'album, peut-être vous commencez à nous expliquer son principe, son arc narratif.
Alors l'arc narratif est très complexe et très écrit. On sent le scénariste justement de cinéma et l'amoureux aussi d'un certain type de cinéma, puisque c'est un livre qui se range vraiment dans la catégorie spéciale du polar américain, qui est le hard boiled, c'est-à-dire les romans à la fois de Dashiell Hammett et de Raymond Chandler. Ça se passe à Hollywood, comme beaucoup de livres de Raymond Chandler. Il y a un côté le grand sommeil, par exemple.
Il y a un détective privé.
C'est vraiment le Continental Hop de Dashiell Hammett, c'est-à-dire le dur à cuire, etc. Sauf que Jules Pfeiffer pousse le curseur encore un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on est un alcoolique, un détective alcoolique, on boit beaucoup et ça vous nuit, même si vous avez une grosse carrure. Il y a toute une série de durs à cuire dedans qui sont remarquablement charpentés, d'ailleurs, qui sont des espèces de blocs comme ça, extrêmement massifs, mais très fragiles en même temps. Et à côté de ça, une quantité de personnages féminins qui souvent se ressemblent dans le trait, ce qui fait que l'identification n'est pas toujours évidente a priori pour le lecteur.
On se demande s'ils sont pas de la même famille.
On verra après que ça joue peut-être un rôle dans ce récit qui est extrêmement complexe, extrêmement foisonnant, tressé avec une habileté qui pousse jusqu'au bout même les conventions de ce type de roman ou de film, où à la fin on n'en peut plus et il faut des grandes pages d'explications pour que tout se remette en ordre. Mais moi j'étais assez époustouflé par ça, et y compris par ce dessin qui est très jeté. On sent le dessinateur de presse qui va très vite. Alors ça peut heurter un peu au début, parce que ce genre d'histoire, on est plutôt habitué à les lire dans des compositions graphiques en apparence comme ça extrêmement extrêmement puissantes. Or, et c'est là que j'en viens à la mise en page, c'est que il y a des inventions dans la construction de la page, dans l'unité même de la planche, qui viennent vraiment là de Will Eisner, c'est-à-dire qui a été le premier à inventer ces ambiances de polar extrêmement, extrêmement noires, où la ville prenait une importance dans la construction même de la case, et le dessin même devient un enjeu narratif. Il y a je vous donne le chapitre 1 de la deuxième partie, un personnage qui va se retrouver dans la jungle. Alors là, la référence est plutôt la séquence qui avait été coupée dans Apocalypse Now et qu'on a vu dans la version Redux, c'est-à-dire cette séquence de théâtre aux armées avec les Et les majorettes qui arrivent et tous les soldats qui deviennent fous autour et la guerre qui se déclenche là. Et on a un personnage qui est perdu dans une jungle qui est graphique. C'est en fait, on pourrait presque voir des gribouillis jetés sur le papier et qui vont structurer la planche à travers laquelle elle va devoir se dépêtrer. Et les personnages sont là eux-mêmes à essayer de se dépêtrer dans une intrigue extrêmement touffue et un dessin qui ne l'est pas moins. J'avais envie de parler de ce livre justement parce que j'étais curieux de voir ce que donnait Pfeiffer dans le roman graphique, puisque c'est pas ce qu'il fait d'habitude, et puis c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de voir son travail, et j'ai été époustouflé, enchanté par ce récit.
Alors après le préambule de Jazz Ghost, on a l'impression, ou on pouvait penser que vous seriez moins intéressé, vous, par cet album?
Disons que j'étais sans doute moins séduit par le récit. Effectivement, le côté hard-boiled, Hollywood, et puis la deuxième partie, très Vietnam, etc. J'ai l'impression d'avoir lu ça, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça comme cadre, plusieurs fois, etc. Et dans l'ensemble, ça m'a très peu tenu. Ce qui m'a vraiment intéressé, au contraire, c'est le dessin lui-même, c'est-à-dire ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord ce côté très jeté. Qui a un côté assez punk comme ça, assez sale, très 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 rapide, qu'on pourrait croire, qu'on devrait croire comme issu de la main d'un jeune homme.
Ouais.
Et sauf que là, on a l'impression qu'il court après quelque chose et que du coup ça donne une vraie énergie dans certaines pages. Et ensuite, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que ça contraste vraiment avec certaines constructions. Antoine le disait là encore, mais je pense qu'il faut vraiment s'arrêter sur ça. C'est-à-dire certaines pages sont construites de manière tellement fine et notamment sur le mouvement des corps et sur le découpage de ces mouvements là que je trouve que certaines pages se tiennent vraiment quasiment toutes seules, comme justement des pages de presse, quasiment des pages faites pour être vues dans un magazine et qui donnent l'impression de raconter une histoire en elle-même. Et ça c'est assez passionnant et intéressant, et du coup la dynamique que ça crée dans la lecture entre ce très jeté et par moments ces constructions comme ça géométrique, ça me passionne assez. Ensuite, oui, il y a une vraie confusion dans les personnages entre la corpulence de certains hommes et puis ces femmes qu'on n'arrive pas à distinguer souvent. Et puis effectivement le final où il y a un petit dévoilement, mais bon qui me laisse moi un peu sur ma faim, etc. Parce que bon là c'est quelque chose qu'on a déjà vu pas mal de fois et qui je trouvais un tout petit peu raté. Mais dans l'ensemble, ça donne quand même un très joli roman graphique, intéressant et dans lequel on peut trouver plein de choses, plein d'indices, et qui donne surtout envie de voir d'où ça vient, c'est-à-dire effectivement d'aller voir Harvey Kurtzman, Will Eisner, comme le disait Antoine, parce qu'effectivement ça vient beaucoup de là, même si Eisner avait quand même une forme et une patte quand même beaucoup plus structurée et une vision un peu plus froide que celle-là, je crois.
Catherine Robin, alors maintenant sur l'album en lui-même, Kill My Mother.
J'ai plein de choses en partage avec ce que vous venez de dire, hein, le mouvement, ce très jeté de ce jeune homme de presque 90 ans. C'est, je trouve qu'il y a aussi tout un, ça va aussi, les phylactères, les bulles sont aussi des dessins dans le dessin, je trouve, et ça nous aide pas non plus dans le processus d'identification. Ouais. Généralement, il faut vraiment aller à la pêche de qui parle, etc. Mais ça m'a pas déplu parce que j'ai bien aimé me passer du temps sur chacune des planches parce que je trouve qu'il y en a vraiment, certaines sont très chargé, d'autres comme celle que j'ai ouverte sous les yeux là, avec cet homme nu, un pistolet sur la tempe et juste un dialogue hors champ d'une femme, je la trouve très très intense, bien qu'extrêmement légère celle-ci. Pour le coup, elle n'est pas du tout surchargée cette page-là. Après, ça m'a fait aussi penser à un album dont nous avions parlé il y a quelques émissions, de Matt Kint, du sang sur les mains, et qui m'a assez déplu, justement par la complexité de son récit, par le côté démonstratif de certains des styles qu'il adoptait. Là, je trouve qu'au contraire, je rejoins vraiment Antoine sur ce qu'il dit, il a de leçons, de scénarios, de recevoir de personnes, des jeunes scénaristes d'aujourd'hui, des séries qui sont des génies d'aujourd'hui. Je veux dire, il a plutôt des leçons à donner. Et moi, je marche totalement, même si c'est compliqué, même si c'est difficile avec toutes ces silhouettes de femmes. Et d'ailleurs, je marche d'autant plus que le livre, en effet, donne plutôt la part belle aux femmes quand les hommes sont plutôt tous tous des lâches, des alcooliques, des violents, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment des gueules dans ce livre, des gueules cassées, des belles gueules. Je le trouve vraiment très 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 réussi. Et on a envie de citer beaucoup de références. De fait, lui-même se place sous de multiples références en début de livre. Mais je trouve qu'il tient tout seul. C'est ni un pastiche, ni un hommage. C'est un très très un beau roman graphique noir.
Oui, alors c'est Hamilton, Caniche, Will Eisner, Hammett et Chandler et Kane et John Huston, Billy Wilder, Howard Hawks et John Z. Holden, voilà, qui est dédié.
Doit être sa compagne, la dernière, possiblement.
On aurait presque pu faire une question du jeu de la dispute, mais non, ce n'est pas du tout le cas. C'était une bonne question. Alors, il y a quand même une complexité, une difficulté de lecture que j'ai éprouvée, donc je la partage avec vous. Il faut quand même avoir envie de dépasser quand même quelque chose qui peut être... on se dit, bon, à quoi bon ? Enfin, tout ça est peut-être inutilement compliqué. Alors, on verra ensuite qu'il y a quand même beaucoup de fils qui s'entrenouent et qui jouent, bien évidemment, à vouloir nous faire perdre le fil.
Oui, c'est pour lecteurs motivés, comme on dit. Mais c'est pour ça que j'ai pensé aussi au grand sommeil. Parce qu'il installe une ambiance. Et le grand sommeil, vous pouvez le voir autant de fois que vous voudrez, en tout cas dans la version canonique, parce qu'il y a une autre version montée où on nous explique tout.
Et c'est un
drame. Vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez. Vous ne comprenez rien. Et chaque fois que vous croyez comprendre, si vous retournez le voir, vous vous rendez compte que vous n'avez pas compris.
Et assez vite. Il y a une passivité du spectateur de cinéma qui n'est pas. Là, il faut être un lecteur très actif.
Oui, mais on peut ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on peut se laisser perdre d'abord parce que les fils se dénouent quand même sur la fin. Ça peut se relire sachant tout ce qu'on sait. Et surtout, il y a quelque chose qui est très passionnant, c'est cette collection de grands brisés de la vie qui sont des fous. C'est-à-dire que c'est un vrai livre sur la folie aussi. Ça commence tout de suite par une adolescente qui veut tuer sa mère. On comprendra pourquoi après. On comprendra que c'est peut-être pas la seule et qu'il y a plusieurs mères à tuer ou qui sont déjà mortes dans ce livre. Et il y a un côté très, très triste dans cette folie. C'est-à-dire que tous les personnages sont motivés par une névrose plus ou moins poussée, mais qui vient d'une vraie blessure et d'une vraie tristesse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Le fait qu'il soit né en 1929 m'émeut aussi beaucoup parce que l'univers dans lequel il se replonge, ce sont les films qu'il a vus, lui, adolescent. Il est contemporain de ces films noirs quand il se faisait juste dans l'après-guerre. C'est vraiment, il retourne, il travaille presque ses émotions de jeunesse en montrant des choses qu'on ne pouvait pas montrer à l'époque dans les films, ce degré de dinguerie, de violence et y compris ce discours féministe que vous avez justement remarqué, Catherine Romain.
Absolument. Joseph Gosse.
Juste pour rebondir, ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, donc depuis du haut de son âge, prend une forme qui est le roman graphique, qui est la forme la plus moderne entre guillemets de la bande dessinée et en profite pour faire le livre qui n'a jamais été fait sur ce passage des années 50 aux années 70 et qui du coup regroupe toutes ces beaucoup de références, de figures, etc., d'influences de l'Amérique de ces années-là. Alors on peut déplorer le fait que ça ne dépasse pas ça, que ça reste là, mais ce sont ses années à lui, ses années de jeunesse et sans doute de formation, et puis un peu plus tard aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle tue ta mère, et que on a l'impression que dans les sortes, voilà, il tente de régler leur sort à ces années-là et à ces figures-là.
Je serais très intéressé, je ne sais pas si c'est le cas, vous avez pu lire ça, des entretiens avec Pfeiffer pour savoir un peu comment cet ouvrage est né. Vous en savez un peu plus, Antoine Guillaume ?
On en trouve dans le New Yorker, c'est simplement qu'il y a un moment, il a eu du temps.
Quand il a arrêté, il allait s'installer
dans une banlieue très chic de New York, qui est le East Hampton. Et là, tout d'un coup, il n'avait plus que ça à faire et il s'est amusé à coudre quelque chose d'extrêmement complexe. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est non seulement un auteur de scénarios de films, mais aussi de pièces de théâtre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est habitué à l'écriture dramaturgique depuis très longtemps. C'est très simple, mais une fois qu'on est libéré d'un travail quotidien d'écriture et de dessin pour la publication dans la presse, tout d'un coup on a beaucoup de temps, mais le cerveau tourne toujours très vite. Et puis ce n'est que le début, parce que c'est le début. début d'une trilogie. On va avoir la suite. C'est le cousin Joseph, cher Joseph, qui, à mon avis, va avoir des turpitudes.
Il est sorti aux États-Unis, celui-là, le cousin Joseph.
Il est déjà publié. Bon. Il paraîtra en France en 2019.
Non, mais quelle activité.
Et oui, la couverture Robin. Française est assez ratée, moi, je trouve, par rapport à, ouais. à la couverture américaine, qui est, ouais.
qui est très
un
belle,
dessin de,
absolument. De la jeune fille avec son pistolet
voilà, avec
rose.
Son pistolet fumant. Oui. Et là, on dirait plus peut-être un essai sur le cri de Munch, un peu, avec ouais. ce visage pris entre deux mains. Et je la trouve. C'est dommage qu'il.
Je suis d'accord avec vous, la couverture originale qu'on peut regarder sur le compte Twitter, La Dispute FC, est beaucoup plus réussie.
Je signale aussi pour la réédition probable, j'espère que ce livre aura beaucoup de succès, qu'il y a quand même quelques coquilles ouais. dans, oui. Dans les bulles qui sont en complète soi-même. Mais c'est un peu dommage parce que, comme vous le disiez, déjà la lecture n'est pas.
Oui, pas facile, mais si en plus on se reprend totale, sur les fautes. Voilà. Oui. Juste comme ça, c'est pas pour le Guinness Book des records, mais des auteurs de bandes dessinées qui produisent à un âge aussi avancé, c'est pas si
Will
courant.
Eisner, Will oui. Eisner, publié très tard. Mais c'est vrai qu'en général, et surtout en France, dans la bande dessinée franco-belge, le vieil auteur a un peu du mal. Mais Moebius, bon, qui est mort beaucoup plus jeune, a produit des choses extraordinaires jusqu'au bout. Et,
Gottlieb, il a pas...
Gottlieb a arrêté...
Longtemps avant sa mort.
Il a arrêté quadragénaire.
Oui, c'est vrai.
Bon, c'était juste pour ma curiosité personnelle, mais au-delà de son jeune âge, Kill My Mother de Jules Pfeiffer est à lire dans une traduction, et on corrigera les coquilles pour la réédition de Vladimir Anselme. C'est pas Vladimir Anselme hein, qui fait les fautes, hein, j'imagine. Enfin bon, bref, c'est une équipe, hein, Actes Sud BD. Relisez donc.
Un très bon éditeur, Thomas Gabisson, c'est un très bon. Très excellent.
Bon, vous lui enverrez toutes les coquilles que vous avez notées. Voilà. À suivre dans la dispute, le récit autobiographique de la jeunesse de Jean-Marc Rochette. Ça s'appelle Elle froide. Et puis nous parlerons également de l'exposition Chris Ware à la Galerie Martel.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la bande dessinée avec Elle froide de Rochette, écrit et scénarisé par Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette. Si vous aimez l'alpinisme et la bande dessinée, c'est un album qui est fait pour vous, puisque en effet, on va le découvrir en lisant cet album. S'il n'était pas devenu peintre et illustrateur, Rochette serait sans doute aujourd'hui guide de haute montagne, ou il ne le serait peut-être plus hein, d'ailleurs, parce que c'est pas un métier où on fait toujours de vieux os. En tout cas, l'alpinisme, c'était sa première passion, et c'est donc le récit de son enfance, adolescence, jeunesse, et de son goût pour les hauts sommets qu'il nous livre ici. On entendait la BO de Snowpiercer, un film dont nous avons parlé ici, le transpersonnage, film adapté d'une bande dessinée de Rochette. Et je dois dire, en préambule, que moi j'étais très surpris de découvrir, parce que bon, Rochette, bon, c'est pas un nom qui me frappait plus que ça. Donc je découvre presque à la fin du livre que je connaissais bien et que je connaissais surtout Edmond le Cochon, que j'ai tant lu, jeune homme, dans L'écho des savanes. C'est lui qui dessinait cette épouvantable personnage que j'adorais particulièrement. Bon, là, je fais un grand bond en avant parce que, c'est effectivement, si l'alpinisme s'arrête, il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi le fait de devenir dessinateur professionnel pour Rochette. Mais on rembobine. Catherine Robin sur Aile froide.
Oui, vous avez posé, enfin non, vous n'avez pas posé la question, Arnaud, mais moi je la pose. Est-ce qu'on doit aimer la montagne pour aimer le livre?
Alors je vous pose une question, Catherine Robin. Est-ce qu'on doit aimer la montagne pour aimer ce livre?
Eh bien non, pas forcément.
Et c'est... je le confirme.
Voilà. En fait, c'est difficile de ne pas penser. Je vais tout de suite faire une référence, mais au Sommet des dieux de Jirō Taniguchi, qui m'a tout de suite, enfin auquel j'ai tout de suite pensé, bien que la série de Taniguchi soit pas du tout autobiographique, c'est un manga assez lyrique, mais
je pensais au livre d'Eri De Luca, donc chacun ses références.
Mais qui évoque quand même cette concurrence des sommets, cette mise au défi de soi-même, cette course contre les autres, etc. Et qui moi m'a jamais vraiment fascinée. Je veux dire sur le fond, voire m'a presque souvent mis mal à l'aise dans la vraie vie. Dans la fiction, je trouve ça passionnant. Dans la vraie vie, ce qui est arrivé à l'alpiniste française, par exemple, dernièrement, qui laisse son compagnon de cordée. Mais enfin, c'est comme ça. Philosophiquement, ça m'a toujours un peu questionné cette question de l'alpinisme et de à la fois la solidarité, mais aussi l'individualisme des sommets, des conquêtes des sommets. Mais bref, le livre de Rochette, c'est une autobiographie. Ça parle beaucoup de montagne, mais pas que. Ça parle aussi des joies enfantines, de l'adolescence, et c'est vivre une adolescence dans un contexte comme ça montagnard. Eh bien, c'est on a encore plus l'occasion de mettre au défi son corps, de se comparer avec les autres, de prendre des risques comme on le fait souvent à l'adolescence. Il dédie ce livre à sa mère, qui est aussi un personnage comme ça qu'on croise dans le livre. Et je trouve que c'est très pudiquement fait. Mais pour en revenir, excusez-moi, à la conquête des sommets et combien ça me dérange. Il y a par exemple un moment dans son histoire où il est en train de monter je ne sais plus quel sommet et il a un accident avec son compagnon de cordée et il dévisse, la roche Joubert, il se blesse. Et ils vont redescendre comme ça au refuge tous les deux. Et puis il dit, je ne l'ai pas revu jusqu'à 40 ans plus tard en fait. Et je trouve que c'est quand même des liens très très étonnants. Et il les décrit plutôt bien, Rochette. Il décrit plutôt bien cette complexité des liens. Et tout ça va être mis dans la balance au moment de choisir entre l'illustration, le dessin, la peinture et la montagne, puisqu'il se blesse, gravement. Mais à ce titre-là, je trouve que le livre est plutôt réussi sur cette mais il reste qu'il continue à adorer la montagne et il va, puisque la dernière image c'est une photo de lui en train d'encore escalader les sommets. Mais après, sur le dessin à proprement parler, on est loin de la carte postale immaculée. Le dessin est plutôt sombre, je trouve, comme parfois d'après gravure. Il a décidé de faire un format assez petit, il aurait pu faire plus grand. Et surtout, je trouve que vous remarquerez qu'il y a pas mal de cases en horizontal, ce qui peut-être me fait penser que moins qu'un livre sur le côté grandiose de la montagne, il a vraiment voulu raconter son histoire, raconter une histoire, et qu'on soit très attentif à cette narration, à ce texte et à sa vie.
Antoine Guillot, est-ce que faut-il aimer la montagne pour apprécier cet album?
C'est compliqué à dire parce qu'il se trouve que la montagne, je la connais un peu, ce coin-là, je le connais un peu, le parc des Écrins. Je viens d'une famille entre autres de montagnards, puisqu'il y a une des voies qui est présentée dedans, qui a été ouverte par mon oncle. Voilà.
Donc, que je connais
bien, je fais un aveu.
Breaking news.
Vous parliez des noms de cochons, mais
la voix Guillot.
Ça s'appelle La Promesse dans
Je l'ai vu, mais oui,
Le Verdon.
Elle y est, on la voit.
C'est extraordinaire.
Absolument.
Voilà. Et alors,
je suis bouleversé, je ne vais pas pouvoir continuer cette émission.
Je trouve que de ce fait, n'étant pas grimpeur moi-même, mais en connaissant quelques-uns, je trouve qu'il décrit remarquablement bien ce qu'est l'état d'esprit et les défis que peuvent se lancer des grimpeurs jusqu'à des âges avancés, y compris la certitude qu'un jour on va y passer, et que ça fait partie aussi de ce rapport-là. Et ces cases que vous décriviez, qui ne sont pas dans un grand format, mais qui décrivent ce que c'est qu'une paroi, ce que c'est qu'une voix, comme on les appelle en alpinisme. Je ne sais pas s'il y est retourné pour les dessiner ou s'il les a toutes gardées en tête. Et à mon avis, il les a plutôt toutes gardées en tête parce que il montre un rapport tellement proche, tellement charnel à la paroi qu'on les garde forcément comme un geste qu'on pourrait faire les yeux fermés, quoi, que ça risque d'être un peu dangereux en montagne. Que je trouve remarquable. Cette manière, et d'ailleurs le livre ouvre sur une peinture, c'est ce bœuf de Soutine qui le passionnait au musée de Grenoble. Rochette, avant de revenir à la bande dessinée, s'est arrêté complètement de faire de la bande dessinée et s'est consacré à la peinture pendant ce temps-là. Et il me semble qu'avec...
Il inclut d'ailleurs un de ses tableaux dans les pages.
Absolument. Il me semble qu'avec ce livre et sa manière de peindre la montagne, parce que c'est vraiment jeté au pinceau de manière très, très vive, là encore, il a allié toutes ses passions, la bande dessinée, la peinture et la grimpe. Je trouve ça extrêmement bien fait. Et derrière ça, vous parliez de pudeur dans le rapport à la mer, mais il y a une violence dans la façon de décrire ce rapport de cette mère célibataire, mal vue d'ailleurs à l'époque, parce que le père est mort, il est mort en Algérie. Le malheureux, c'est créer une tension dans cette famille. Il y a une manière de peindre les regards qu'il porte sur elle d'une violence totale quand sa mère veut pas qu'il grimpe, quand elle lui donne des quand il l'emmène à la montagne et qu'elle fait pas ce qu'il faut et qu'il est très énervé. Il y a un gros plan sur ses yeux, c'est extraordinaire. Et il y a une façon aussi de dépeindre une société française qui est celle de juste après 1968. Il est né en 56, donc on regarde, il dit j'ai 14 ans quand il commence à grimper. On est en 1970. On sent que la société n'est pas complètement encore libérée d'un certain poids hiérarchique, d'interdiction grotesque, d'une société qui étouffe complètement. Et on comprend d'autant plus qu'il ait cette envie d'aller respirer l'air des cimes en prenant tous les risques. La camaraderie que vous décriviez avec certains compagnons de cordée, c'est presque utilitaire, mais ce rapport avec son copain Sampé qui est sur une passion commune, et puis le jour où Sampé, lui, il a plutôt envie de vivre, d'aller voir les filles et de vivre à plein la libération des années 70, ça ne peut plus marcher, effectivement, puisqu'il n'y a plus cette passion. Et il y a en plus une dramaturgie qui est faite dans ce livre, qui vient aussi du titre Aile froide, altitude 3954. Vont-ils grimper ce fameux sommet, et sur chaque montagne, on sait que tout peut arriver. Et je ne connaissais pas la biographie de Rochette auparavant, sur les raisons pour lesquelles je savais vaguement qu'il adorait la montagne, qu'il s'est réinstallé dans les Alpes maintenant. Je ne savais pas pourquoi il avait arrêté. Il y a des péripéties dramaturgiques propres à la montagne, et c'est extrêmement bien exploité, là encore, ce que ça peut apporter comme émotion au lecteur. Je trouve ce livre extraordinaire.
Bon. J'avais une question pour Joseph Gauss. Je me demandais s'il fallait aimer la montagne pour apprécier cet album.
Alors, c'est
ça m'est venu comme ça. Question. Je vous la pose.
C'est une drôle de question parce que moi, je me suis dit en lisant ce livre qu'il fallait vraiment aimer la bande dessinée, en fait. Parce que je trouve. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je trouve que c'est un livre qui interroge celui qui regarde la bande dessinée. Et comment la bande dessinée vient à celui qui la fabrique. Beaucoup plus que la montagne. Parce qu'effectivement ça parle de la montagne, de son rapport à la montagne, etc. Et comme Antoine le disait, il y a quelque chose d'extrêmement charnel, précis, quasiment érotique entre guillemets dans sa représentation de la montagne, etc. Mais tout ça au fond c'est simplement le récit d'un échec qui mène vers quelque chose qui est toujours là en demi-teinte, en fond, et qui est quasiment au départ un peu subalterne, qui est le dessin en fait, et comment le dessin vient à quelqu'un, et comment l'envie de raconter une histoire arrive. Et c'est plutôt ça qui m'a vraiment plu, notamment parce que je trouve que le début de l'histoire est un tout petit peu et un peu long à mon sens à démarrer. J'aime beaucoup effectivement le rapport à la mer, que je trouve fait avec une extrême violence, et là pour le coup le livre aurait aussi pu s'intituler Tu ma mère, parce qu'il y a quelque chose comme ça d'assez profond et toujours violent, et on comprend toujours pas s'il a pardonné quoi que ce soit ou en sont leur rapport, et ça c'est vraiment ça tient quelque chose. Mais finalement c'est ce délitement de ce qui le passionne, de ce qui le tient, de ce dont il aurait voulu faire sa vie, et l'échec finalement de ce projet-là, qui fait qu'il aboutit à la bande dessinée, et Et de ce point de vue-là, c'est assez génial, c'est assez passionnant parce qu'on le voit finalement en train de réaliser un livre sur ce qui l'a passionné et qui a été qui est finalement un rendez-vous raté avec quelque chose dont il maîtrise absolument toutes les là pour le coup beaucoup mieux toutes les formes et toute la narration. Donc là c'est assez, quand c'est entre les deux, quand ça frotte vraiment entre les deux, là ça me passionne assez, et je trouve que le livre est vraiment très très bien sur sa fin. Beaucoup plus que sur le début où effectivement on est un peu je passe un peu vite, et plus ça rentre dans la montagne, dans l'échec, et que le dessin arrive, et plus ça me tient.
Ah oui, moi je suis tout de suite rentré dedans, moi qui n'ai pas de passion particulière pour la montagne ni d'ascendance qui est ouvert des voies, parce que on est évidemment dans quelque chose qui est un roman d'apprentissage, mais qui est sur la question de la transgression. Mais en fait, quand même, je crois pas qu'on l'ait dit pour l'instant, la première transgression elle est du côté du dessin, parce que ces deux passions elles coexistent chez le jeune homme d'entrée. Enfin, d'ailleurs il dessine avant de grimper, et donc cette transgression par le dessin, bon, elle peut être dangereuse, mais la transgression quand on grimpe, là, elle est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, il y a pas mal de conflits. Il y a lui qui fait certaines bêtises, mais il y a aussi beaucoup de conflits avec ses camarades de grimpe, parce que si on suit pas très précisément des règles de base, ben c'est sa vie qui est en jeu. Mais il y a quelque chose de... J'ai l'impression que Rochette, à ce moment-là, et c'est ça qui nous fait partager, s'interroge. C'est sur quoi je joue ma vie? Est-ce que je joue ma vie en grimpant l'aile froide, ou est-ce que je joue ma vie en allant chez Bizot et Actuel voir cette bande de drôles de types qui me donnent ma chance, mais c'est quand même aussi un milieu où je risque de me perdre. Donc il y a un choix.
Il y a un côté un peu hasardeux,
ouais,
dans tout ça. Mais, c'est,
les deux passions
échec,
sont là.
Oui,
moi, je ne vois pas ça comme un échec du tout.
Je vois ça comme un choix. Je veux dire,
la vie a fait le choix pour lui.
Absolument.
Pardon.
Catherine Robin, juste pour
finir. Ce qui est intéressant, c'est que au même moment, Benoît Peters, qui est un scénariste de bande dessinée, a fait paraître avec Aurélia Horita une vocation ratée autour de la vocation de chef. Il a voulu être chef cuisinier. Et à ce moment-là, vous parliez, Antoine, du fait qu'on était en poste 68, etc. Être dessinateur de BD en France, est-ce que là aussi, ça prenait un long temps, un long cheminement pour se faire à l'idée que, ah oui, éventuellement, je peux vivre de cela. Et je pense que ça a joué aussi dans la balance. C'est pour
venant
ça
de la lointaine Grenoble pour aller à Paris où se joue la BD, évidemment, à ce moment-là.
Non, mais Joseph, l'échec est peut-être un mot trop fort, mais c'est vrai que quand il représente ses dessins de l'époque, ce sont des croquis un peu maladroits. Et on voit bien qu'il n'y croit pas tout de suite. Et que finalement, ça se fait effectivement sur un hasard.
Elle est reproduite.
Les premières choses qu'il dessine, c'est-à-dire lui en train de grimper, même quand on voit Edmond Le Cochon, etc., ça reste assez. Mais après, c'est tout à son honneur. C'est-à-dire, il montre ça comme quelque chose, comme un passe-temps qui effectivement le sauve d'autres choses, finalement. Mais par contre, quand il représente la montagne, elle est sacrée, elle est là, elle est imposante.
Et par nature, terme, je crois.
Par nature, mais aussi dans sa façon de la montrer, j'ai l'impression. Et on sent sa fascination encore pour ça. Et d'ailleurs la dernière planche, ça reste quand même ce qui n'a pas atteint. Mais effectivement, les deux, ce que je disais, c'est-à-dire que les deux frottent, et c'est ça qui est bien là dans le livre, qui tient bien.
Antoine Guillot.
Il y a le sentiment aussi, quand vous parliez de transgression et d'échapper à quelque chose, de rejoindre une sorte de société secrète où il y a des codes, il y a des noms, il y a des, vous disiez, des conduites à tenir, mais aussi on se jauge, c'est-à-dire on fait sa liste de courses, comme on l'appelle à l'époque, pour pouvoir devenir éventuellement guide de haute montagne, mais c'est aussi qui va marcher le plus vite, on va doubler les gens qui passent, on fait des choses d'ado qui sont de montrer un peu les muscles, quitte à faire des bêtises extrêmement périlleuse. Mais toute cette rage qui est accumulée par le contexte de l'époque, par cet échec que, malgré tout, d'une ambition, d'un rêve qui était celui des signes, donnera ce Edmond Le Cochon vous aimez tellement. C'est-à-dire un personnage extrêmement punk, extrêmement en rébellion contre tout, pas propre sur soi. Et c'est avec ça qu'il va vraiment exploser, parce que les premiers dessins qu'on montre d'Actuel sont quand même très très précis. On sent qu'il veut il veut bien faire, le moment où il ne voudra plus bien faire et il se lâchera complètement, ça donnera l'extraordinaire Edmond Le Cochon.
Boris Pinault, juste quelques peut-être commentaires avant de poursuivre un instant encore.
Oui, Marc Bourgne sur Twitter dit avoir du mal à se remettre de sa lecture d'Aile froide. Et le conseil même à ceux qui n'aiment ni les récits autobiographiques, ni Tenez-vous bien la montagne. Oh. Parce que c'est bien plus que ça, très impressionnant. Et Xavier C parle d'un nouveau rendez-vous prodigieux avec Jean-Marc Rochette. Un chef-d'œuvre, je répète, un chef-d'œuvre, une leçon d'humanité.
Joseph Gosselin.
Effectivement, finalement, je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, après avoir lu le livre, beaucoup de ces images m'ont vraiment suivi et habité assez longtemps certaines représentations, et notamment les scènes qui, pour le coup, ne se passent pas du tout dans la montagne, mais à l'hôpital, lorsqu'il est blessé et qu'il en est quasiment à perdre ses dents, sa mâchoire, et qu'on est dans ce service avec tous ces édentés, etc. Et là, on est vraiment dans une représentation de la violence, du mal, de la souffrance.
Ça renvoie aux gueules cassées de 14, exactement. Dans un télescopage sidérant.
Oui, et le livre de Philippe Plançon dont on parlait la semaine dernière, sur des motifs différents, et on n'a pas évoqué, mais l'internat aussi.
Oui, l'internat c'est assez dur.
C'est très violent, une figure de sadique improviseur.
Pour les gens qui regrettent l'héritage de 68 en disant que c'était mieux avant, ça recontextualise ce que c'était que la France de l'époque.
Bon, il y a beaucoup de choses à lire, vous avez compris, dans Aile froide de Jean-Marc Rochette, et puis comme il y a une complémentarité toujours remarquable sur cette antenne, il sera l'invité de Marie Richeux, lundi soir à 21h dans Par les temps qui courent.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute de bande dessinée, c'est une exposition, celle de Chris Ware à la Galerie Martel. Alors, petit rappel, née en 67, une œuvre bien connue, alors notamment cette série Jimmy Corrigan, 7 volumes, qui a reçu notamment en France le prix du meilleur album à Angoulême, le prix de la critique également. Un auteur qui dit s'inspirer lui majoritairement des comics américains d'avant les années 50, mais qui a évidemment largement réinventé la narration, le fond, la forme. Et Chris Ware a une exposition en ce moment à la Galerie Martel. C'est Joseph Gost qui va commencer à nous parler de cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut voir dessiné par Chris Ware à la Galerie Martel, dont je donnerai l'adresse dès que je l'aurai retrouvée.
Rue Martel.
C'est ça, c'est rue Martel.
C'est rue Martel.
Oui, non, mais tout d'un coup, j'avais un doute. Je me suis dit, non, Galerie Martel, est-ce vraiment rue Martel?
Oui, vraiment rue Martel.
Au 17, soyons précis. Faut-il aimer la rue Martel pour aller voir l'expo Chris Ware?
Il ne faut pas forcément aimer la rue Martel, il faut aimer le bleu, je crois.
Et très belle couleur hein, dans Aile froide, pardon, à propos de bleu, tout et des nuances de cieux magnifiques. Pardon.
L'exposition, j'avais proposé cette exposition avant même de l'avoir vue, parce que je pense que Chris Ware est un auteur important, comme vous le disiez, qui a une monographie qui est sortie récemment chez Rizzoli, qui explore un peu tout ce qu'il a fait. Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller voir ces planches exposées. J'en ai vu quelques-unes, mais je me souviens d'une exposition il y a 7 ou 8 ans, peut-être à la Galerie Martel aussi, mais c'est assez rare de le voir exposé. Je crois qu'il vend très peu son travail, ou alors dans des galeries plutôt d'art contemporain. Enfin, c'est quand même assez rare de le voir. J'ai été extrêmement surpris, touché par ces planches, et notamment par comme ça quand vous rentrez dans la galerie, il y a deux murs qui se font face avec les planches comme ça qui sont très symétriques, posées de manière quasiment militaire, qui se font face. Et j'étais happé par déjà par cette première vision, par cette espèce de comment dire de symétrie et d'univers extrêmement ordonné qui se dégage là. Effectivement, quand on connaît les livres de Chris Ware, quand on les regarde, on voit bien que il y a une méticulosité, une maniaquerie, oui, dans c'est la moindre.
J'ai l'impression que c'est quand même chose. Pathologique chez le garçon, non?
C'est certainement pathologique, mais en tout cas, ça tient sans doute aussi d'un art poussé vraiment à son extrême, mais qui pour le coup est maîtrisé d'une façon assez folle, surtout quand on regarde ça, quand on regarde ces planches-là. Et après, quand on regarde les planches une par une, on voit la diversité et tous les possibles qu'il y a chez lui. C'est-à-dire, il y a certaines planches qui comportent 78 cases, d'autres en comportent 12. Certaines sont des dessins pleines pages qui sont conçus comme des publicités à l'ancienne. Il y a des couvertures du New Yorker. Il y a des histoires qui viennent en une seule page et qui sont juste remarquables sur ce qu'elle raconte. Par exemple, je pense à une planche intitulée Joanne Cole, qui est un de ses personnages, et qui, en 12 cases, fait le récit de la journée de cette femme qui joue de la guitare, s'enregistre chez elle, va travailler, revient chez elle, et ça se termine par une note de musique qui sort de sa maison, et ça raconte son univers, sa vie et son extrême solitude. Et ça m'a bouleversé de la lire, alors que j'ai quand même pas mal lu Chris Ware, mais ça m'avait échappé. Donc il y a quelque chose comme ça de, en regardant ces planches là, qui permet de rentrer directement dans son, quasiment dans sa tête, dans son univers et dans sa fabrique même. Et rien que ça, déjà, c'est passionnant de voir le travail quasiment à l'œuvre et de voir la maîtrise aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a quasiment pas de retouche. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Il n'y a pas de repentir. Tout a l'air posé comme.
Est-ce qu'il ne refait pas sans cesse pour arriver à cette planche parfaite? C'est la question qu'on peut se poser avec lui, non?
J'ai pas l'impression qu'il refait sans cesse. C'est-à-dire, quand vous regardez, même il y a des films, il y a des choses de lui, on voit quand il l'ancre, etc. On est dans une perfection, dans une subtilité assez folle. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'étais un peu arrivé au bout de certains de ces livres les plus récents, notamment à cause des couleurs, qui commencent à me rebuter un peu, notamment parce que je les trouve un peu trop informatiques ou un peu trop, voilà. Et là, le fait qu'il n'y en ait pas et qu'il ait simplement son trait avec du bleu, parce que tout est dessiné au bleu, etc., je trouve ça assez bouleversant, en fait. Voilà.
Catherine Robin, peut-être avant même de parler de l'exposition, Chris Ware fait partie des auteurs que vous aimez.
Oui, enfin, en tout cas, j'ai lu Jimmy Corrigan, j'ai lu Building Stories, mais en même temps, il n'y a pas une œuvre colossale.
Mais en fait, si. Ah, bah alors. En fait, l'œuvre est quand même immense.
Mais pas traduite. Il y a
au moins deux livres à l'association.
Il y a Delcourt,
il y en a un autre. Delcourt, mais chez Delcourt, il y a Jimmy Corrigan, il y a Building Stories,
Rusty Brown.
Il y en a quelques-unes.
L'œuvre est assez immense. Il a fait notamment beaucoup de comics depuis la fin des années 80, quand même. Et il a aussi fait des carnets de dessin. Il y a deux volumes de carnets de dessin qu'on peut trouver assez facilement, où on voit vraiment son art un peu à la Crumb.
Reviens à vous, Catherine Robin.
Non, mais la difficulté avec Chris Ware, c'est de rentrer dans cette galerie et après, il faut absolument prendre le temps. On peut pas les dessins de Chris Ware, ils se donnent pas à nous. C'est à nous d'y rentrer et de prendre le temps. Heureusement, je crois qu'il y a une trentaine de planches affichées. C'est largement suffisant.
Une trentaine d'heures de visite.
Absolument. Il lui faut 40 heures, je crois, pour faire une planche. Oui, donc il faut une trentaine,
regarder,
au moins pour voilà. J'ai lu récemment une interview dans Libé, enfin un portrait dans Libé où le journaliste citait Simon Hanselman, le dessinateur australien, qui disait moi, je ne peux plus lire Chris Ware, il me faut un putain de mode d'emploi, sinon j'y arrive pas. Mmh. De fait, si on prend, il faut juste. C'est pas un mode d'emploi dont on a besoin, c'est vraiment du temps. Mmh. Parce que quand justement cette on peut très vite considérer ça très froid comme du dessin industriel presque, mais là justement le fait qu'il y ait pas ces couleurs, qu'il y ait le crayonné bleu, etc., permet d'accéder à l'humanité de Chris Ware et surtout la lecture du fond montre que ce n'est pas seulement froid, c'est aussi très drôle. Mmh. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup de désespérance aussi. Hein. Jimmy Corrigan, c'était voilà, il y en a pas dans mon souvenir parce que je confonds avec l'expo qui avait eu lieu en 2013, mais il me semble pas qu'il y ait de Jimmy Corrigan dans cette exposition là. Mais il y a des choses très drôles, son histoire de la littérature où il fait se rencontrer, je sais plus, Chateaubriand et Proust ou je ne sais plus trop. Voilà. Après, il y a tous ses essais, toute son œuvre récente sur les travaux des formes, rond, carré, triangle, qui est juste à gauche, là, quand on rentre dans la galerie, et qui est assez intéressante, d'autant plus que dans la petite vidéo, en effet, qui est montrée, où on le voit chez lui, à sa table de travail, il vit dans une petite maison en bois, sous les combles, dans un triangle, avec des fenêtres carrées qui ressemblent à des cases de bande dessinée. Enfin bon, il est entouré par cette matière qui malaxe en permanence, et c'est un des plus grands observateurs de la société américaine d'aujourd'hui. Vraiment, moi je pense que c'est un génie, et il faut juste du temps pour s'en rendre compte.
Antoine Guillot, enfin, sur Chris Ware et son exposition à la Galerie Martel.
Alors, quand je vais dans une galerie qui expose des planches de bande dessinée, rien ne m'ennuie plus que de les lire, puisque pour moi, elles sont faites pour être lues dans des livres, et d'ailleurs, je ne peux que recommander, parce que vous n'aurez pas forcément les moyens de vous acheter une planche de Chris Ware, ça va quand même jusqu'à du 39 000 euros par moment. Par contre, vous pouvez vous procurer pour un prix bien plus raisonnable cette monographie éditée chez Rizzoli, où là, vous aurez tout le temps chez vous de décrypter ces planches qui sont pensées malgré tout pour la mise en couleur, en tout cas pour ce qui est de la lisibilité. Mmh. C'est vrai qu'on s'aventure, c'est toujours une aventure d'entrer dans une planche de Chris Ware, de comprendre dans quel sens ça marche, parce que c'est pas toujours des alignements de cases. Hein. Parfois, il faut retourner le livre plusieurs fois, ça part un peu dans tous les sens, et on n'est pas sûr d'avoir vu. Mais l'intérêt d'aller en galerie, c'est justement de voir l'ensemble, c'est de voir comment ça tient une planche en soi, et presque la forme abstraite que ça prend à un moment. On a l'impression de voir des diagrammes, des sortes d'outils pour appréhender, pour presque attraper la vie, attraper l'esprit humain, attraper sa désespérance, son humour aussi, cette façon de s'auto-déprécier en permanence qui vient aussi très largement de Crumb. Il y a une affiche extraordinaire qui est une affiche de recrutement d'élèves pour un cours sur les comics. On a chargé Chris Ware de faire un séminaire. Alors si on le regarde de loin, ça dit est-ce que vous hey toi, est-ce que tu dessines des bandes dessinées? En fait, quand on lit tout ce qui rentre dedans, c'est heureusement peut-être que tu ne dessines pas de bande dessinée, donc que tu as une vie sexuelle tout à fait épanouie. Si malheureusement pour toi tu dessines des bandes dessinées, il y a un très mauvais professeur complètement lamentable qui est là, et si vraiment tu es déprimé au point de venir me rejoindre, rassure-toi, tout ce que je te dirai c'est c'est génial ce que tu fais. Voilà, et c'est une manière donc de faire. Il faut qu'on fasse des zooms dedans, mais c'est vrai que ça tient extrêmement bien. Il y a une beauté architecturale complète et presque là encore abstraite dedans. Après, la grande exposition Chris Ware reste à faire. J'espère qu'un jour on la verra en France, parce que quand vous regardez Monographie, il y a un travail plastique et notamment de sculpture chez Chris Ware, qui invente toutes sortes de machines extrêmement complexes, qui fabrique des maisons de poupées, des choses à monter soi-même, qui donnerait, je pense, la vraie grande dimension. Donc on espère qu'un jour, Angoulême, qu'est-ce que vous faites? Faites une belle expo Chris Ware.
Il est à chaque fois en lice pour le Grand Prix, ça fait 2 ans déjà.
Bon, enthousiasme partagé, Boris Pinault sur les réseaux.
Oui, un commentaire de Thomas Moot. Très belle exposition sur Chris Ware, génial auteur américain. Il représente le dynamisme de la BD Made in US, composition, graphisme, dessin, tout y est.
Bon, ben voilà, tout y est. Donc allez, rue Martel, à la Galerie Martel. L'exposition qui est consacrée à Chris Ware est visible jusqu'au 19 mai. C'est l'heure du jeu de la dispute, l'heure où Camille André entre dans ce studio après l'avoir live tweeté valeureusement. Et elle va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse. Camille.
Eh bien, on se demandait pourquoi la série Senses, racontant l'histoire de quatre femmes, est découpée en cinq épisodes. Eh bien, parce que chacun des épisodes correspond à l'un des sens.
Et on en parle demain soir dans notre dispute cinéma, je le redirai dans un instant. On fait gagner ce soir l'invitation pour l'exposition Chris Marker, qui a lieu à la Cinémathèque française à Paris, qui est ouverte jusqu'au 29 juillet. Quelle est la question ?
Eh bien, quel est le nom de la collection consacrée aux différents pays du monde, créée par Chris Marker aux éditions du Seuil en 1952 ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Pour avoir toutes les informations sur cette émission, vous rendez sur le site internet franceculture.fr, vous allez à la page de la dispute et là vous pouvez réécouter aussi l'émission et bien sûr vous abonner à son podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, donc dispute cinéma. On en sera comme chaque vendredi en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, et nous serons avec Corinne Rondeau, avec Julien Gester et avec vous, Antoine Guillot, pour parler ensemble de Senses, donc de Ryosuke Hamaguchi, de Takara, la nuit où j'ai nagé, de Damien Manivelle et Koei Higashari, et puis de Comme des rois de Chabi Molia.